Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.
C'est l'heure de la création radiophonique sur Canal B.
Bonjour et bienvenue dans Gymnastique sonore, une émission de l'association Bande Magnétique qui vise à développer vos biceps auriculaires grâce à des exercices hebdomadaires savamment élaborés par les auteurices. Aujourd'hui, on écoute la deuxième partie de la création sonore de Lucie Tocavin, Ce genre de jour. Tu te souviens, toi, du moment de ta vie où tu t'es rendu compte que tu étais une fille, un garçon ou autre ? Lucie se souvient du jour très ordinaire où elle s'est rendue compte qu'elle était une fille. Pourtant, elle n'avait que 6 ans. Et il s'en est passé des choses depuis dans sa vie. En fait, elle se souvient surtout de la sensation dans son corps. C'est étrange, non ? Pourquoi c'est resté en elle ? C'était quoi cette sensation exactement ? Et est-ce que les autres aussi ont ce genre de souvenirs liés à leur genre ? Pour l'aider dans cette drôle d'enquête intime, Lucie convoque l'adolescente qu'elle était. Guidée par les souvenirs d'autres personnes, elle se remémore, frictionne leur vision entre déclic et résistance, déplie des mots, et petit à petit, retrace le chemin d'une prise de conscience. Attention, cette création sonore peut évoquer des violences sexistes et sexuelles.
Tout est prêt, allons-y.
Ah bah, te revoilà, toi.
Ouais. En fait, je comprends toujours pas ton délire.
Ah bon ?
Ouais, ton truc là, par rapport aux souvenirs de quand on avait 6 ans. Le jour où je me suis disputée dans le bain avec Joël parce que dans le jeu imaginaire auquel on jouait, on voulait être le même personnage et qu'il a dit...
De toute façon, toi, tu peux pas, t'es une fille.
Non ! Je suis pas une fille.
Et qu'au bout d'un moment, notre grande sœur, Jordan, elle est venue et elle a montré nos sexes et elle a dit qu'on voyait bien que j'étais une fille.
Oui.
Et la sensation de ça qui est restée pendant tout ce temps. Tu dis que c'est la sensation d'avoir été arnaqué, mais on peut pas arnaquer quelqu'un avec son sexe. C'est pas possible. On l'arnaque sur... je sais pas... Tiens, cherche un peu la définition d'arnaquer. Et pourquoi tu me donnes ça ? Parce que tu peux aussi aller sur Internet dessus. C'est pas vrai. Là, c'est le navigateur, et t'as juste à taper ta recherche.
Ouah, trop classe !
Alors, arnaquer. Adjectif du verbe arnaquer, qui a pour signification abuser de la confiance de quelqu'un pour lui voler quelque chose ou le tromper. Bah, tu vois, j'avais raison. Dans le bain, quand ils m'ont dit que j'étais une fille, ils m'ont rien volé, je peux pas m'être sentie arnaquée.
Et t'as pas du tout l'impression que cette notion d'arnaque, elle résonne avec la sensation qui est au fond de toi ?
Si, mais... je sais pas. C'est bizarre de dire comme ça. On va où, là ?
Je rentre chez moi.
À Toulouse ?
Non, maintenant, j'habite à Liège, en Belgique.
Waouh, c'est hyper loin !
Eh, ça fait une sacrée route, oui.
Et t'étais chez papa et maman ?
Mm-hmm. Ah, et tu sais quoi ? L'autre jour, il y avait un repas de famille, et je leur ai parlé du souvenir du bain. Puis après, je leur ai demandé ce qu'ils pensaient de cette histoire de sensation d'être arnaquée.
Oh, mais non, mais t'as pas fait ça !
Non, mais tu vas voir, c'est super intéressant.
Oh non, la honte. Oh.
Ce genre de jour.
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 À ce genre de jour.
Deuxième partie.
Thank you.
alors, est-ce que vous avez une idée de pourquoi je me suis sentie arnaquée?
Arnaquée par nous?
Pourquoi ça t'a perturbé à ce moment-là? Pourquoi c'est à 6 ans, ça t'a perturbé? C'est difficile à savoir.
Faudrait demander à Joël pourquoi il t'a dit ça, mais il s'en rappelle pas peut-être.
Ah oui, ça ne l'a pas marqué. Ça a marqué Lucie ce jour-là, mais...
Pourquoi ça t'a flashé à ce moment-là, alors que bon, tu savais bien que t'étais une fille?
Pourquoi t'as pas posé la question à d'autres gens? Je sais pas, genre, ceux qui t'ont raconté leurs souvenirs. Ah si, j'ai fait ça aussi.
Alors pourquoi tu t'es sentie arnaquée
Parce que t'avais pas du tout la moindre idée de ce que ça pouvait être une fille, un garçon. Au début, tu ne sais pas c'est quoi la différence entre un garçon, je pense, et fille. Et t'avais pas remarqué certains petits détails.
Mais c'est-à-dire que le garçon, il y a quand même quelque chose qui sort. Et que du coup, si c'est cette hypothèse-là, de se dire, ouais, mais moi j'ai rien qui sort, donc j'ai un truc en moins, quoi.
Bah ouais, moi je crois que j'avais pas fait gaffe qu'il avait un pénis. Et mais moi je crois pas qu'après je voulais avoir ça. Oh, un truc qui pendouille là. Berk.
Je sais pas, peut-être parce que tu jouais toujours au foot avec Joël, il t'avait toujours considéré comme son partenaire, son...
Sa réflexion, il t'a mis dans une autre catégorie.
Et toi, tout d'un coup, c'est là que ça t'a...
Et là, tu t'es dit merde.
Parce que tu y avais jamais pensé.
Ça t'a marqué. Merde, je suis une fille. Tu l'as interprété de manière frustre d'être dans une autre catégorie que la sienne.
Tu vois les Nadjins?
Les quoi?
Les Nadjins.
Ah oui, les Nadjins.
Bah nous, avec les copines du lycée, on peut pas dire qu'on est dans la même catégorie quand même. Ah non, mais elle, comment elle fait trop sa Nadjin?
Et pourquoi on les appelait comme ça déjà?
Bah, laisse tomber, c'était trop un trip.
Et ben tu vois maintenant, j'ai l'impression que c'était un peu flou, cette différence par rapport aux Nadjins.
Mais si! Genre, on a des fringues larges, on passe pas notre vie à se maquiller, on fait des conneries, on se marre à fond, on n'est pas genre superficiel. Non mais je vais jamais acheter ça, hein. Ça fait vraiment trop Nadjin.
Et Marlène alors, c'est une Nadjin? Tu crois qu'elle pourrait faire partie de notre groupe?
Bah, c'est vrai que quand tu la vois, tu te dis qu'elle est un petit peu Nadjin sur les bords, quoi. Mais elle l'est pas en vrai, donc...
Et est-ce que c'est pas qu'on se croyait plus malines que ces filles-là parce qu'elles avaient juste pas les mêmes intérêts?
Non, bah je sais pas. Mais en tout cas, on est plus dans la catégorie des garçons que dans celle des Nadjin. Tu trouves pas?
Bah quand tu dis ça, je trouve que ça divise les filles, mais que ça met un peu tous les garçons dans le même panier.
Fille et garçon, c'est naturel comme catégorie. Peut-être que c'est moi, en fait, qui suis pas normale.
Oula, non, c'est pas toi le problème. C'est pas du tout...
Non, mais...
Une des raisons pour lesquelles ça me parle, cette sensation d'arnaque, c'est justement parce que ça résonne avec les injustices liées au genre.
C'est pas grave, hein.
En fait, il y a plein de choses que je devrais t'expliquer sur ça. Ça t'aiderait à comprendre plus vite. Et puis ça t'éviterait sûrement des merdes.
Ça va, je te dis.
Mais je sais pas si c'est bien que je te balance tout ça d'un coup, là, maintenant. Peut-être que ça va, je sais pas, créer une sorte de faille spatio-temporelle.
C'est quoi Instagram?
Peut-être que c'est pas bon de sauter des étapes de la vie, en fait.
C'est marrant ce qu'il y a dessus. Les gens, ils y mettent leurs photos de vacances. Il y a même ce qu'ils bouffent. Genre, salut, j'étale ma vie, quoi. C'est ouf!
Tiens, tu veux bien aller dans le dossier, là? Le truc bleu avec un rond?
Ouais.
Et cliquer, là, sur Maë.
Ah, t'es encore là-dessus?
Daphné, c'est une amie d'enfance. Sa particularité, c'est qu'elle avait des cheveux courts. Et souvent une salopette. Et donc, elle avait plutôt du style. Et on s'entendait bien. On était dans notre imaginaire. Et sans arrêt, les autres enfants n'arrêtaient pas de lui poser cette question. Mais t'es une fille ou un garçon? Mais t'es une fille ou un garçon? C'est comme s'il lui disait, tu sais pas qui t'es. J'avais vraiment la sensation dans les yeux des enfants qu'il la décrivait comme un monstre et qu'elle devait absolument choisir. Et à force d'entendre cette fameuse question, mais t'es une fille ou t'es un garçon? T'es une fille ou t'es un garçon? Un jour, je m'en veux tellement, je lui ai posé la question. Je m'en rappellerai, je pense, de son regard, quoi. Comme si j'avais été un peu infectée par cette maladie, mais voilà, cette méchanceté. Et elle s'était dit, mais pas toi, comment tu peux la faire ça? Et j'ai brisé quelque chose. Moi, je le savais très bien, en fait, c'était juste mon amie. Pas besoin de savoir si c'est une fille ou un garçon.
Tu t'es peut-être sentie arnaquée parce qu'en fait, tu n'avais pas pu choisir. Pourquoi ton frère l'avait doté, par exemple, d'un sexe masculin et toi d'un sexe féminin? En fait, on ne t'a pas demandé ton avis.
Il y a une chose qui est sûre, c'est que ce n'est pas un choix. On ne choisit pas d'être un homme ou une femme. Maintenant, en mettant de côté les nouvelles dimensions qui sont plus de genre, ici je parle de sexe, quoi.
Ah bah tiens, sexe et genre, je parie que là tu connais pas encore la différence.
Si.
Tu sais que maintenant, la plupart des gens situent bien ce que c'est la notion de genre. C'est génial! Quand j'y pense, ça me paraît fou d'avoir compris ça si tard, moi. Oui, bon, bah, ça va, t'as qu'à dire que je suis teubée aussi.
Ben...
Non, je rigole. Mais parce qu'en fait, pour toi, c'était pas vraiment possible de... Tu...
Sexe et genre ne sont pas des expressions interchangeables. Le concept de genre désigne l'ensemble des caractéristiques que l'on prête à la masculinité et à la féminité et qui n'ont pas de rapport avec la biologie mais avec la construction sociale. Ces différences entre femmes et hommes sont acquises, peuvent changer avec le temps et varient d'une culture à l'autre, voire au sein d'une même culture.
Tu vois, distinguer le sexe du genre, c'est faire une différence entre le type de sexe avec lequel tu nais, un sexe dit féminin ou dit masculin, et le genre auquel tu te sens appartenir. Un homme, une femme, ni l'un ni l'autre, ou les deux.
Ni l'un ni l'autre.
N'importe quoi, c'est pas possible ça.
Bah si, si on distingue bien le sexe et le genre, ça réouvre tout un spectre de possibilités d'être qui on veut vraiment.
Sacha, que tu avais entendu la dernière fois, et elle dit quelque chose que je trouve super là-dessus.
Ce que j'aime et que j'ai toujours aimé, c'est l'ambiguïté. C'est les gens se trompent. Madame, monsieur, madame. Et ça, j'aimerais que ça perdure. J'aime ça, ce truc où on peut pas te coincer. Ah, t'es une fille, toi, tu dois aimer la cuisine. Ah, t'es un mec, toi, c'est normal que je sais pas quoi. Non, c'est ce truc-là, en fait, vraiment. C'est d'échapper à ça.
Et alors, si ça peut changer, le genre, ça veut dire que dans une autre culture, j'aurais pu être un mec?
En fait, même si c'est pas encore très facile ni très bien compris, ici on peut aussi. Comme Kezia ou Alix qu'on avait entendu l'autre jour.
Ah oui! Les personnes transgenres. Moi je crois pas que je voulais être un garçon. C'est juste que... Avant l'histoire du bain, peut-être que je pensais que j'étais juste... moi, quoi. Enfin, tu vois. En fait, le genre, c'est tous les trucs style... les robes, les cheveux courts...
Exactement.
Les petits poneys... Les ongles qu'on peut pas ronger.
Et c'est aussi les comportements ou les goûts qu'on attend de toi, en tant que fille ou garçon. Des rôles que tu dois jouer.
Comme au théâtre, style.
Toi, tu peux pas, t'es une fille. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que ça, les filles n'avaient pas accès à ce rôle-là.
Tu t'étais identifiée à...
Tu étais peut-être la princesse, mais t'étais pas le chevalier ou autre comme ça.
Est-ce que c'était du style « moi je suis le chevalier machin » et qui t'a dit « ben non, tu peux pas, t'es une fille » parce que c'est le chevalier, connoté un mec.
Il y a aussi le fait que vous étiez toujours en pantalon.
Ou alors, ouais, mais...
Pourquoi elle ne serait pas un garçon dans la mesure où elle était en pantalon comme son frère? Et elle avait les habits de son frère.
Pourquoi elle n'aurait pas...
C'est compliqué, votre histoire.
Pourquoi elle n'aurait pas joué le garçon? C'est voilà. Ce que tu veux dire.
Pourquoi elle n'aurait pas été un garçon? Parce qu'elle
jouer joué le garçon.
On était à un stage avec une amie très proche. Je devais avoir une dizaine d'années.
Elle, c'est Florence.
Et en fait, cette amie-là, elle voulait être un garçon depuis toujours. Elle était très garçon manqué, comme on disait à l'époque. J'espère qu'on ne dit plus cette expression-là aujourd'hui, mais on disait ça, garçon manqué. Donc, elle avait les cheveux courts, elle s'habillait avec des t-shirts larges et shorts. Souvent, on la prenait pour un garçon et c'est quelque chose qui lui faisait plaisir. Et donc là, elle s'est dit qu'elle allait vraiment se faire passer pour un garçon. On a choisi un prénom masculin et on l'appelait comme ça. Elle a pu jouer au foot avec les garçons parce que sinon, les filles n'étaient pas autorisées. Et en fait, en faisant ce petit stratagème, on le faisait vraiment sérieusement. Donc, on a réfléchi à comment elle devait faire pour que vraiment ça marche. Le plus dont je me souviens, c'est la manière de parler, le langage, les gros mots et la démarche. On regardait un peu comment elle marchait, puis de s'asseoir un peu comme ça. Ouais, plus cool. Ouais, puis de ne pas se laisser faire aussi, répondre si on est emmerdé de « fais chier, ta gueule, dégage ». Ce qu'une fille ne pourrait absolument pas faire. Et donc du coup, si on voit quelqu'un faire ça, forcément c'est un garçon. Là, j'ai vraiment pris conscience en fait de toutes les différences. Tout ça est devenu très saillant, très clair à ce moment-là. Oui, j'admirais son audace, son courage, de vraiment aller jusqu'où c'est dont elle avait envie. Et puis en assumant le garçon manqué, on peut prendre beaucoup plus de place et donc... Moi, la manière dont je percevais les filles, c'est quand même plus réservée, plus timide, plus... Et donc elle était aussi un peu la star parce qu'elle prenait beaucoup de place et qu'elle faisait rire. Je me sentais très fière d'elle, fière de la connaître et fière d'être associée à elle. Même si moi, je voulais être une fille, mais...
Et pourquoi tu veux toujours écouter les histoires des autres? Je croyais que ce que tu voulais, c'était comprendre pourquoi on s'est senti arnaqué. Oui, oui, oui. Mais tu trouves pas qu'en écoutant les anecdotes des autres... T'as moins l'impression que le problème, il est en toi?
Ouais, un peu. Mais on pourrait pas écouter des histoires un peu plus, avec des vrais héros et des vraies arnaques, quoi.
Et ce serait quoi une vraie arnaque pour toi?
Dans 200 mètres, tournez à droite.
Je sais pas, une arnaque, c'est quand... c'est quand il y a des gens qui te font un sale coup dans le dos, voilà.
Tournez à droite.
Et puis c'est pas que c'est pas intéressant, tes histoires, là, mais c'était avant. Maintenant, on n'est plus à la préhistoire, on peut faire ce qu'on veut.
Ben, dans les gens que tu entends, il y a quand même pas mal de personnes qui ont le même âge que nous. Et notamment Maë.
J'étais enceinte de mon premier enfant. Je me sentais d'une force indestructible, j'étais animale, j'étais... Et puis il y a eu l'après. Une fois que mon enfant est arrivé, je me suis sentie qu'on me collait une sorte d'étiquette. Où je devenais une femme mère. En fait, je l'appartenais à une autre catégorie. Déjà, je me sentais assignée au foyer et je me retrouvais pas du tout là-dedans. Je pense que le petit mot, c'est « sentir écartée ». Un souvenir où on s'est disputé avec mon conjoint. On a eu un enfant qui était malade, donc chose très classique quand ils sont petits. Et il me dit « bon ben, c'est pas grave, tu le gardes demain ». Parce que j'étais une femme, d'office, en fait, c'était à moi de le garder. J'avais l'impression que je devais être cette femme d'intérieur. Tout devait arriver d'un coup, comme si c'était ma destinée. Ça a été difficile. On nous offre ce rêve qu'on peut tout faire, et moi, j'y ai vraiment cru. Je voyais pas de différence entre femme-homme, sincèrement. Et il y a vraiment eu ce basculement. D'un coup, en fait, on me disait « non, reviens à ta place, quoi ». Reviens à ta petite place de femme, mère. Et là, ça a été l'effondrement pour moi. Je me suis dit, ah là, c'était une sacrée illusion. Et moi, j'y ai cru.
Est-ce que elle s'était mis dans la tête qu'elle était égale à
Joël? Aussi égale à Joël.
Égale à Joël, puisque tu jouais avec lui et que...
Elle s'était peut-être même pas mis dans la tête qu'elle était un garçon. Elle s'était mis dans la tête qu'elle était comme Joël, point. Voilà. Après, le sexe n'entrait pas en ligne de compte, je crois pas.
Ouais, voilà,
enfin, qu'elle était l'égale de Joël par rapport à tout ce qu'elle pouvait faire. Hein.
Oui.
Peut-être, hein, t'avais cette idée.
Mais quand même, tu sors encore. Comment ça? Tu restes pas chez toi à flipper et à voir personne.
Tu veux savoir si je rentre toute seule tard le soir?
Oui, mais je vois pas...
Tu vois que c'est possible de faire ce qu'on veut pareil que les mecs?
Ah oui, bien sûr. Mais on peut pas dire pour autant que c'est aussi facile pour nous de le faire.
Du coup, j'avais 35 ans. J'étais avec deux amis, donc deux mecs.
Là, c'est Céline.
Et on parlait du fait de, quand on marche dans la rue, qu'on rentre tard le soir, par exemple après une soirée, de pouvoir se sentir en insécurité en marchant dans la rue. Et là, il y a l'un des gars qui commençait à dire « Ah oui, bah du coup, moi, je crois que ça m'est arrivé une fois ou deux à Lyon. » Quand il a dit cette phrase-là, je me suis un peu arrêtée. J'étais « Attends, ce sentiment d'insécurité en marchant dans la rue tout seul, tu l'as ressenti qu'une fois ou deux, en fait, dans ta vie. » Et il me dit « Bah oui, oui. » Et du coup, là, c'était hyper bizarre parce que je me suis dit, en fait, moi, c'est une pensée qui est un peu toujours là, permanente. Quand je vais marcher dans la rue, je peux être un peu interpellée, peut-être agressée et tout par des hommes. Et cette pensée qui est tout le temps en moi, en fait, lui, il l'a eu une fois ou deux dans sa vie. J'ai eu ce truc du genre, mon Dieu, mais c'est vraiment dégueulasse, quoi. C'est injuste. En fait, ça m'a perturbée aussi de réaliser et comprendre ça que si tard dans ma vie.
Moi, j'ai pas peur. Arrête un peu. Tu fais genre, mais tu peux pas me dire à moi que t'es toujours à l'aise.
Ah, si.
Puis de toute façon, s'il arrive un truc, c'est parce que t'as déconné. Que t'as pas fait ce qu'il fallait. Qu'est-ce que tu fais? Je m'arrête.
J'ai pas eu l'impression d'être une fille ou un garçon. J'ai l'impression que j'étais un peu asexuée. Mais autour de 17 ans, là, j'avais de la poitrine et je me rendais compte du regard des garçons sur moi. Tu vois, il y a ce truc un peu où on te regarde différemment avec du désir. Et je pense que pour moi, c'est là où je me suis vraiment rendu compte que mon corps pouvait changer le regard des gens. J'avais une grosse poitrine, des très longues jambes. Bah, c'est facile, tu mets une mini-jupe, un décolleté et c'est torché, quoi. C'est horrible. Putain. Mais tu plais, en fait. Tu vois que tu plais. Les gens te regardent différemment que si tu viens avec un pantalon, un col roulé, on te regarde pas de la même manière. Après, dans la rue, dès que tu mets une jupe, dès que tu mets un décolleté, tu vas te prendre un sifflement et une réflexion à la con. C'est chiant, quoi. C'est aussi pour ça que je le fais plus, parce que en fait, ces réflexions, j'ai plus envie de les entendre. J'en ai marre. Et donc, tu te caches un petit peu aussi, quoi. Après, je me suis jamais pris de sale pute. Tu vois, des trucs agressifs comme ça. Les classiques mecs qui se touchent dans la rue, oui. Je me rappelle avoir été suivie par un mec qui se touchait. Et moi, je suis rentrée, je me suis assise, j'étais en pleurs et j'étais là, mais... En fait, c'est choquant. Qu'est-ce qui vient de se passer, tu vois? Et c'est là où, dans ta tête, ça part dans tous les sens et tu te dis, bon, ça aurait pu très très mal se passer. Puis t'oublies, quoi. Mais à part ça, rien. Je crois que j'ai beaucoup de chance, tu vois, de pas avoir subi d'agression, de... Non, faut pas dire ça. En vrai, de mon cul, oui. Des mecs qui me touchent les seins dans la rue. Je marchais, il y avait un mec en face de moi. Et là, le mec me touche le sein, en passant à côté de moi. Et en plus, comme t'as pas de soutif, c'est comme si t'avais rien, en fait. Tu sens le mec qui te touche. Et j'étais tellement choquée. J'étais juste estomaquée. Et le mec est parti en sifflant, hein. C'est comme, je sais pas, tu évites une crotte de chien dans la rue, tu fais ton petit tour, hop là. Non, c'est pareil, sauf que lui, il touche les nichons. À part ça, à part tout ça, ça va.
Quand t'écoutes Cécilia, t'as l'impression que c'est de sa faute, toi? Bah, des fois, c'est pas de bol aussi. Tu sais, dans les histoires qu'on m'a envoyées, il y en avait beaucoup qui racontaient des violences, des attouchements, des agressions. T'as pas tout entendu?
Mais arrête! C'est chelou! On dirait que tu veux toujours tout ramener aux histoires des autres.
Non, mais je suis sérieuse. Je m'attendais pas à ça. Et puis...
Non, mais arrête! C'est bon, là! Pff, tu me saoules!
Ouais, c'est toi qui me saoules.
C'est quoi le délire? Y a que des sortes de féministes sur Instagram?
Non, mais c'est moi qui choisis les comptes que je veux suivre, et c'est ça qui l'affiche. Bah, moi, je serais pas féministe. Hein. Je veux pas qu'on dise que je suis une grosse pute moche qui a la haine des hommes et qui baisse des meufs enfin, poilues parce qu'elle est trop
frigide. Mais arrête de lire les commentaires de merde, là.
Non, mais moi, je veux continuer à avoir des amis. Je veux pas qu'ils pensent que je suis une hystérique qui veut brûler.
Enfin, pose ce GSM. Arrête d'être obsédée par ce qu'on peut penser de toi.
Mais c'est bon, j'ai rien fait. Arrête de m'agresser, là. GSM. La violence, si je t'en parlais, c'était pas pour que t'aies peur.
Ah oui ? Ah bah c'était pour quoi alors ? C'était pour me faire marrer ?
Pour que tu saches qu'il y en a beaucoup et qu'on en parle peu. Bah en fait, tu sais déjà.
Je sais quoi ?
Tu vois quand on a lu le journal intime de Jordan ? Le prof qui l'a emmené en voiture.
Ouais.
Et ben notre impression de malchance...
Moi aussi ça va m'arriver, ce genre de merde.
Je pense que c'était l'intuition qu'on vit dans une société qui autorise la violence des hommes sur les femmes. Et les études là-dessus, le nombre d'agressions, elles montrent bien que tu peux pas dire que quand ça arrive, c'est la loterie. Ou que c'est parce qu'on n'aurait pas fait ce qu'il fallait.
Oui, mais alors, on fait quoi ? On sort plus dans la rue ?
Si, parce que de toute façon, on voit que la majorité des violences, elles ont lieu à l'intérieur des maisons.
Ah bon ?
Et qu'elles viennent de personnes qu'on connaît. On apprend à se défendre.
On connaît. Genre le prof de guitare qui était trop bizarre.
Oui.
Celui qui était hyper grand avec une coupe de cheveux trop petite.
Ralentissement signalé sur votre route.
Mais c'est pas sûr qu'il faisait exprès de me toucher comme ça.
Tu crois vraiment qu'on aurait arrêté la guitare si ça avait été de la maladresse ou de l'affection normale ?
Mais comment tu peux être sûre maintenant, alors qu'on n'a rien dit quand ça s'est passé ?
Parce qu'il y a les autres qui ont des histoires similaires. Et les études. Et aussi, parce qu'entre-temps, j'ai lu un bouquin incroyable qui s'appelle King Kong Theory et qui m'a beaucoup touchée. Ça parle notamment de la manière dont la société éduque les filles, de comment ça les amène à douter de leur jugement et à ne pas savoir se défendre. Comme ça, elles ne sont jamais une menace pour les hommes.
Ton frère te rende compte que tu n'étais pas dans la même catégorie que lui. C'est ça, sûrement, qui t'a fait mal. Il t'a relégué dans une autre
classe. Voilà. Tu
n'étais pas dans la sienne.
Voilà. C'est quoi la classe d'une fille ?
Non, mais c'est...
Une fille, c'est une fille. Il te faisait sentir qu'il était supérieur à toi.
Et avant King Kong Theory, il y a eu un autre moment qui résonne fort pour moi avec la notion d'arnaque. C'était un jour où j'étais allée dans une librairie.
C'était quand ?
Je devais avoir 23 ans. J'étais en train de chercher un livre et je tombe sur « La domination masculine ».
La domination.
Je l'ai vu et ça m'a...
Masculine.
Aspiré, littéralement. C'était un auteur dont j'avais déjà lu des textes qui m'avaient beaucoup intéressé.
Un mec ?
Un sociologue.
Domination.
Et c'est un mec qui a écrit ça ?
Masculine.
Oui, et quoi ? Si ça avait été une femme ?
Bah, faut se méfier, parce que ça pourrait être de la mauvaise foi.
Bah, figure-toi que j'ai lu plus tard qu'il s'était bien gardé de citer les travaux des féministes dont il s'était inspiré.
Bah oui, mais si un homme a écrit ça ?
La domination masculine.
C'est que...
Oui, bah, donc bref, j'ai acheté le livre.
Ça doit vraiment exister, alors.
Et ça m'a pris du temps, mais je l'ai lu.
Pourquoi il met toutes ces notes de partout, là ? Et ça parlait de quoi ?
Ça parle de la différenciation genrée des filles et des garçons.
En gros, les qualités qui sont liées au masculin.
alors que les qualités qui sont liées au féminin sont dévalorisantes.
Du fait qu'elle est présente partout, dans les traditions, le sport, le rapport à la violence, les jeux, les petites phrases. Et ça montre comment elle modèle nos comportements.
Il dit que les stéréotypes de genre et la domination masculine sont tellement ancrés dans la société, dans les médias, dans les films, à l'école, partout, qu'on n'en est plus conscient.
Et comment elle génère de la violence. Bon, lui, il parle surtout de violence symbolique dans son bouquin, mais en réalité, c'est loin d'être que ça. Et ça parle aussi du fait que cette différenciation genrée, elle permet aux hommes d'avoir plus de pouvoir.
Même si l'injonction à la virilité peut aussi générer beaucoup de violence sur eux.
Mais c'est abusé.
Et puis ça décrivait avec des mots, et plein de notions que je ne connaissais pas encore, des injustices et des rôles dont il me semblait que j'avais toujours eu l'intuition. Dans mon corps. C'était fou!
Mais c'est bizarre quand même que personne n'en ait jamais parlé avant. Qu'il y a cette domination. Tu trouves pas?
C'est vrai qu'on l'entendait très peu, ce discours-là. Et quand c'était le cas, ça finissait toujours par se retourner contre la personne qui en parlait. Et puis tu vois bien, dans les moments que racontent les autres, des fois ça prend du temps de se rendre compte. Ça se fait par étapes.
Quand j'ai eu mes enfants, je me suis occupée d'eux, j'étais maman au foyer pendant 2 ans et demi. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que la vision que pouvaient avoir les gens du rôle que j'avais et la vision qu'ils avaient du rôle de mon mari était très différente.
Ça, c'est Emma.
Il y a souvent ce regard que moi j'ai ressenti de bah, elle galère quoi, elle galère et on va la laisser galérer quoi. Bon, eh ben toi t'es une maman, tu l'as choisie, vas-y tu assumes. Ça c'est quelque chose qu'on m'a déjà dit, bah tu les as fait, maintenant t'assumes. Alors que bon, on est... à la base on est deux, hein, mais c'est... Et mon mari, dans des situations comme celle-ci, il bénéficiait au contraire d'une espèce d'aura de waouh, mais le papa, regardez, c'est génial ce qu'il fait quoi, il est tout seul avec ses 2 enfants et c'est fantastique et il s'en sort. Alors que, bah oui, en fait, nous, on le fait tous les jours, et c'est pas évident, c'est pas du tout reconnu. Et lui, il allait à la pharmacie, et les mamies, elles lui disaient « Ah, oh, c'est super, oh, vous êtes un bon papa !» C'était des mamies, c'était ma mère, alors c'était des femmes le plus souvent de la génération précédente, mais c'était aussi des amies qui me disaient « T'as de la chance d'avoir un mari comme ça qui est impliqué à ce point dans la vie quotidienne et dans les tâches liées aux enfants et à la maison. » Et au contraire, je pense que les hommes de mon entourage ont pu porter un regard plutôt méprisant sur cette implication, parce que c'est vrai que Romain, il fait beaucoup de choses. Ça n'a jamais été des commentaires comme ça, de façon frontale, où on trouve que c'est nul ce que tu fais, mais ils ont déjà eu des remarques envers Romain en disant « bah, tu t'écrases beaucoup, tu fais beaucoup ». De sous-entendre que de prendre en charge beaucoup de tâches ménagères et de s'occuper des petits, de se lever la nuit, bah, quand même, c'était une forme de soumission à moi. C'est des bâtards quand même. Non mais sérieux, sérieux.
En tout cas, quand j'ai commencé à me rendre compte que ce qui m'arrivait, ça n'arrivait pas qu'à moi, après il y a plein de situations qui sont devenues plus claires.
Comme quoi par exemple ?
Par exemple, quand j'étais étudiante, que j'allais boire des coups avec une ou deux copines, il y avait tout le temps des types qui nous payaient des verres.
Voilà mesdemoiselles, c'est de la part du beau jeune homme là-bas.
C'est cool, ça, ça fait plaisir. Des mecs bien plus âgés, souvent. Et comme on n'avait pas trop d'argent et qu'on était très soucieuses du gaspillage alimentaire, on les buvait, ces verres. Et 3/4 du temps, au bout de quelques minutes, le gars déboulait au milieu de notre conversation.
Salut les filles, je peux m'asseoir avec vous, hein?
Et moi, au fond, ça me faisait royalement chier. Oui, mais en même temps, si t'es tranquillou en train de siroter la bière qu'il t'a payée, tu vas pas l'envoyer bouler, ça fait crevarde. En général, il se lançait dans un monologue, genre une expérience héroïque et sauvage qu'il avait vécue en Thaïlande. Ça m'énervait, et j'avais toujours du mal à le cacher.
Oh, pourquoi t'es tendu, là, toi? Profite de ta bière, relax, on discute. Ta pote, là, elle est cool, elle. Elle a des yeux magnifiques en plus. T'aurais pas des origines thaïlandaises, toi ?
Eh ben, après avoir lu le livre, j'ai compris que ce qui m'énervait, c'est que ces gars-là ne faisaient pas un cadeau avec leur verre. Ils nous achetaient. Et ensuite, ils estimaient qu'ils devaient en avoir pour leur argent. Comme si on était des objets. Et comment t'as fait, alors ? J'ai arrêté d'accepter les bières.
De toute façon, je m'en fous de toi. T'es moche.
Pourquoi tu t'es sentie arnaquée ?
Est-ce que c'est juste une histoire de... Le personnage que vous vouliez, vous deux, avait un genre très défini. Et du coup, il fallait forcément que le genre du personnage corresponde au genre d'un de vous deux. Ou est-ce que c'est parce que t'es une fille et que, en fait, les filles décident pas ? Ça, je sais pas dans votre histoire.
Ce serait encore pire si c'était lui qui avait le droit de décision. Parce qu'il est le petit mec et toi, t'es la petite meuf. Enfin, tu vois ? Donc là, évidemment, tu te sens niqué, quoi.
Si ce rôle avait été un rôle de... très féminin, par exemple, est-ce que ça aurait été inversable, cette remarque ? Est-ce que toi, t'aurais pu dire à ton frère « Ah ben non, tu peux pas, t'es un garçon. » C'est ça.
Tout à l'heure, t'as parlé d'un truc, ça m'a fait bloquer. La violence symbolique ? Non. Mais ça veut dire quoi, ça ? De la violence symbolique, il y en a dans pas mal des récits de souvenirs que tu as déjà entendus.
Au rond-point... Prenez la deuxième sortie.
Je pense à celui de Valérie aussi.
C'est le souvenir de la plus grande discrimination que j'ai vécue et qui me laisse encore une sorte de colère. En gros, j'étais dans une entreprise où toutes les femmes qui revenaient de congé maternité disparaissaient. J'avais pas pensé que j'allais être licenciée. C'est après que j'ai réalisé qu'il y en avait d'autres qui étaient parties avant moi. Et donc, je reviens de congé maternité. Et j'ose demander un temps partiel. Je devais faire du 9h-18h, quelque chose comme ça. Et les règles de l'assistante maternelle, qui était une assistante maternelle municipale, c'était 19h, on referme la porte sur la famille qui repart avec son gamin sous le bras. Et j'avais une bonne heure de transport. Donc clairement, matériellement, c'était pas possible. Donc j'ai été reçue par mon chef, qui m'a expliqué que ma demande, elle était inaccessible, c'était pas possible, vous rendez compte, vous êtes cadre, machin, etc. Et donc ils ont utilisé ma demande de temps partiel pour dire que l'argument de mon licenciement, c'était incompatibilité avec les horaires. Moi, je me suis renseignée auprès de l'inspection du travail. Ben, ils m'ont répondu, en gros, mais madame, vous êtes des milliers en France à être licenciée à votre retour de maternité. C'était pas genre, c'est comme ça, mais pas loin, quoi. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je monte au prud'homme ? Et en me renseignant un peu, il y avait quasiment 3 ans d'attente, tellement il y avait de procès sur la table. Pourquoi ça m'a fait monter les larmes tout à l'heure ? C'est que j'ai abandonné. Et du coup, ça reste une frustration terrible, parce que d'une part, c'est une discrimination envers les femmes, envers la maternité. Ah oui, parce que le bonhomme, ce qu'il m'a dit, c'est « vous avez fait un enfant, vous avez 28 ans, et vous allez en faire un autre. Et puis, si vous faites comme ma fille, vous allez peut-être même en faire un troisième, quoi. »
En gros, la violence symbolique, ce que j'en ai compris, c'est que c'est une forme de violence qui passe par des mots, des idées ou des discriminations. Ça s'insinue lentement chez les personnes qui la subissent, sans qu'elles s'en rendent compte. Et ça génère des émotions comme la honte ou l'anxiété. Et ça va même jusqu'à nous faire penser que c'est normal, cette domination.
Ah ouais.
L'argument que tu es une fille, ça voulait dire que tu avais perdu, en fin de compte, dans ta dispute sur le personnage.
Je pense que t'as perdu parce que ton frère avait gagné. Parce qu'il avait ce truc que toi, tu n'avais pas.
Si j'avais été à ta place, je me serais dit, mais en fait, c'est le fait d'être une fille, c'est que j'ai pas droit d'avoir le dernier mot, en fait.
On peut faire une pause ? Ah non ! Je sais ce que t'as dit tout à l'heure. T'as parlé de la loterie. Et si ça se trouve, Je peux trouver des vieux chiffres du loto sur ton truc, que je pourrais jouer, moi. T'imagines ? Comme dans Retour vers le futur, le plan de ouf ! Ah, il y a un gars qui t'envoie plein de messages. Je peux lire ?
Oui, si tu veux.
C'est ton amoureux ? Oh là là, eh !
Oh, mais c'est grave cucu ce qu'il t'envoie !
Ouais, j'adore. C'est lui, là, sur la photo ? Mais il est petit !
Oui, il est pas très grand, quoi.
Non mais attends, c'est tout juste, il fait la même taille que toi.
Oui, bon, et alors ?
Il fait quoi dans la vie ?
Il est fromager.
Ah ouais ! Eh, c'est chaud quand même, hein ! En plus, il fait un métier de bouseux.
Non mais arrête de dire des trucs comme ça ! C'est grave ! En fait, dans la domination masculine, dans le bouquin, il y avait aussi l'idée que nos attirances sont très influencées par les stéréotypes de genre.
Enfin, c'est peut-être pas trop grave, j'imagine. Si, peut-être... Et sinon, il a une grosse...
Et donc, après ça, je me suis mise à remarquer qu'inconsciemment, je cherchais quelqu'un qui soit dominant, par son corps, sa virilité ou son milieu social. Tu vois ?
Quand j'étais adolescente, j'avais l'impression que « Oh là là, j'ai de la chance d'avoir un copain, il faut que je fasse tout pour le garder. On va pas être trop chiante, on va essayer d'être jolie, on va essayer d'être épilée, on va essayer de... » Voilà. Et à aucun moment, je me suis dit « Le garçon devrait peut-être aussi faire des choses pour nous garder dans ce cas-là. Pourquoi ce serait qu'à la fille d'en faire ?»
Ça, c'est Lola.
J'ai eu donc une première histoire d'amour. Ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré 4 mois, mais j'étais folle amoureuse, complètement aveuglée. Je me conformais complètement à ce que je pensais qu'il attendait qu'on ait comme discussion. J'avais tout le temps peur qu'il me trouve pas assez jolie. La première fois qu'il m'a vue nue, je me suis excusée d'avoir des petits seins quand même. J'avais quand même l'impression de devoir lui dire « Pardon, désolée, je n'ai pas le corps que tu attends. » Et quand j'y repense aujourd'hui, je suis là « Mais c'est n'importe quoi !» On a fait notre première fois ensemble et il m'a largué le lendemain, sans explication. Après, il m'a ghosté, c'est-à-dire qu'il m'a plus jamais adressé la parole alors qu'on avait les mêmes amis, qu'on se voyait tout le temps. Ça m'a vraiment mise dans un mal-être profond où je me disais, j'ai pas été assez bien pour qu'il me garde. Je suis assez épatée de la facilité avec laquelle je me suis coulée dans ce moule, alors que vraiment, c'est pas du tout l'exemple que j'avais à la maison, quoi. Mes parents sont tous les deux très féministes. Ils m'ont jamais dit « Oh là là, il faut que tu trouves un garçon que tu le gardes ». Donc c'est très étrange et je pense que ça vient de tout le contexte social, tout ce que la télévision nous inculque, les séries. Je pense que c'est tout ça, plus une pression. Même si on se dit soi-même que c'est pas normal, et ben on voit ses copines faire ça et on se dit « Il faut faire ça ».
Mais non, mais... C'est pas possible! Les attirances, ça se commande pas! Et puis de se psychanalyser la vie là, comme ça, tout le temps, ça rend pas tout hyper compliqué!
Moi je trouve plutôt que ça redonne de la liberté.
Je me souviens très bien à l'âge de 12 ans, je me sentais différente, je me sentais pas comme elle, pas comme les filles.
Là, c'est Simone.
Même quand j'avais 20 ans, 25 ans, 30 ans, j'ai eu un fils à 29 ans, j'avais toujours des doutes sur... Enfin, je savais que j'étais une femme, hein. C'est ça qui est le plus extraordinaire, je crois. Il y avait une partie de moi qui n'était pas tout à fait d'accord d'être une femme, je pense. Mon père, il disait des choses très négatives sur les filles et sur les femmes, en fait. Donc, par exemple, il disait une chose qui m'obsédait. Pendant des années, quand ma mère allait chez le coiffeur et qu'elle revenait à la maison, il disait en grec ancien « Oia kephale efe kai kephalon ou kekei » ce qui veut dire « belle tête, dit-il, mais de cervelle point ». Ça me faisait me sentir bizarre, ça je me souviens bien. Et moi j'ai trouvé que ma mère était super quand elle revenait de chez le coiffeur. Et puis il balançait ça. Je pense que ça a eu un gros effet sur moi. Oui, et c'est ce truc de ne pas vouloir être une femme, c'est évidemment, mais donc le chemin s'est fait hein, dans ma tête, c'est vraiment ce que disait mon père, c'était tellement négatif que je me disais, mais moi je ne veux pas être une fille, c'est pas possible d'être une fille, quoi. Si je suis une fille, je ne ferai rien dans ma vie, je suis bête. Quand j'ai compris ça, que ce n'était pas moi le problème, parce que je pensais que j'avais un problème, hein, tout à coup, tout s'est remis en place et j'ai plus eu aucun doute sur moi. Moi, étant qui je suis, et être une femme, c'est super. Donc j'avais 48 ans quand je m'en suis rendu compte. Il n'est jamais trop tard.
Il y a un autre moment qui a été un déclic important pour moi. C'était un jour, un peu plus tard encore, où j'étais dans un bar avec des amis.
T'as passé ton temps dans les bars, toi.
Et à un moment, celui qui était en face de moi a regardé comme ça, avec insistance derrière moi. Je me suis retournée, et c'était une fille, jolie, qui marchait avec sa veste en jean et sa robe qui volait un peu dans le vent, comme ça. Et il a dit...
Oh la vache! Elle mérite son fist.
Oh.
Elle mérite son fist ?
Ouais.
C'est quoi, son fist ?
Il voulait dire que cette fille qui passait tranquillement dans la rue méritait qu'il lui enfonce son poing dans le vagin ou l'anus. C'est ça, un fist.
Oh, c'est trash ! Mais c'était une blague. C'était juste pour vous faire rire, non ?
Oui, mais moi, ça m'a sauté aux yeux la violence qu'il y avait là-dedans. Et le fait qu'il la rende responsable de ce qu'il avait envie de lui infliger.
Et quoi, tu t'es énervée sur lui ?
Bah non, j'ai pas réussi. J'ai juste pas rigolé avec les autres, et puis j'ai fini ma bière et je suis partie. Et après, j'ai pas arrêté d'y penser pendant plusieurs jours.
Tu pensais à la meuf ?
Non. En fait, je pensais que si moi j'avais fait cette blague sur un gars, tout le monde aurait trouvé ça hyper violent. Et ils auraient sûrement pas rigolé. Je pensais à toutes les fois où je m'étais marrée sur ce genre de blague.
Oh, il pensait pas mal.
Et je me rendais compte que c'était vraiment compliqué dans ma tête de simplement m'autoriser à trouver ça pas drôle.
Et puis on peut pas toujours tout prendre au sérieux non plus. T'exagères.
C'était une bataille à l'intérieur.
Je crois que je vois ce que tu veux dire.
J'avais peur de plus être d'accord avec les autres.
T'exagères.
Mais en même temps, je sentais que j'avançais vers des endroits qui correspondaient mieux à qui je suis. Et ça, ça me...
C'est avec la sensation d'arnaque que tu te battais.
Oui. Enfin, je me battais avec la part de fatalité qui est dans cette sensation, je dirais.
Et après, t'as fait quoi ?
Après, j'ai continué à lire.
Faites demi-tour.
Et notamment beaucoup plus de livres écrits par des femmes.
Ah oui.
Faites demi-tour.
Parce que j'ai tout le temps envie de mieux comprendre comment les systèmes de domination façonnent nos comportements et nos pensées.
Faites demi-tour.
Oh, il saoule, lui.
Et ça me permet de faire des choix qui sont plus alignés avec mes valeurs.
Faites demi-tour.
En tout cas, moi, j'aurais jamais osé poser les questions aux gens comme t'as fait, là.
Pourquoi tu t'es sentie arnaquée ? Ben parce qu'il t'a dit que tu pouvais pas être le héros. Et que c'était lui, il était un garçon et qu'il aurait pu, il pourrait, et toi pas. Donc c'était dégueulasse.
Vous êtes arrivée.
Ah bah. Oui, c'est clair.
De quoi ?
Si j'avais tout de suite accepté de pas être Pégase et d'être l'autre chevalier un peu nul, ça aurait pas fait toute cette histoire, tu crois pas ?
Ah oui, ça c'est sûr.
Non mais, tu sais quoi ? Si je gagne au loto... Je ferai un film de ouf. Avec une histoire où on sera le héros qui déchire tout.
L'héroïne, du coup.
Ah bah oui. Ah bah oui.
Ce genre de jour. Un docufiction de Lucie Tocavin. Production
Marie-Bette Bèze au sein du collectif VOA. Avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de l'Atelier de création sonore et radiophonique, de la COCOF et de la Maison médicale Les Houlpé. Montage, Lucie Tocavin, Isa Stragliati et Muriel Alliot. Mixage, Joachim Glaude. Bruiteur, Julien Lemestre. Prise de son bruitage, Thomas Nutin. Prise de son, Lucie Tocavin, Bastien Hidalgo-Ruiz et Guillaume Istas. Sound design, Isa Stragliati. Musique, Dylan James. Aide à l'écriture et direction voix, Charlotte Couturier et Marie-Astrid Adam. Avec Maë, Sacha, Florence, Céline, Cécilia, Emma, Valérie, Lola, Simone, Yamina, Noël, Michel, Laura, Lisa, Sabine, Jo, Faïsa, Monique, Yves, Colette, Jean, André et la participation d'Eliott, Olivier et Steven. Les livres évoqués dans cette partie sont King Kong Theory de Virginie Despentes et La domination masculine de Pierre Bourdieu. Un immense merci à Julien, à Cécile et à toutes les personnes formidables qui m'ont raconté leurs histoires et qui ont soutenu ou donné de leur temps au projet.
Gymnastique sonore, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez entendu la deuxième partie de la création sonore de Lucie Tocavin, Ce genre de jour. Pour continuer à vous muscler les oreilles cette semaine, rendez-vous dans les archives de Gymnastique Sonore sur canalb.fr. On se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt.
Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.